Vous écoutez RTL.
RTL.
C'était un petit cheval blanc.
Ils ont trouvé un cheval qui errait dans le No Man's Land.
Jusqu'à 22h.
Voilà les chevaliers du ciel.
Un cheval prodigieux, si tu veux mon avis.
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà les chevaliers du ciel.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est donc un tour du monde à cheval que l'on vous propose dans la curiosité avec notre invité, l'écrivain Jean-Louis Gouraud. Dans un instant, Jean-Louis Gouraud, vous allez nous faire visiter la Corée du Nord. Alors forcément, il y a tant de mystères autour de ce pays qu'on est impatient d'y aller grâce à vous. Mais d'abord, allez, on commence notre voyage en Alsace avec un coup de téléphone signé Antoinette. Qui est Antoinette et que vous propose-t-elle ?
Antoinette de Lille est une de mes amies bien connue dans le milieu de la presse équestre qui me propose un jour d'aller visiter un château hanté. Et alors, comme j'ai en effet plutôt du goût pour ce genre d'endroit...
Et de la curiosité, j'imagine.
Oui, puis enfin j'aime bien les cimetières, les lieux un petit peu étranges. J'accepte avec plaisir sa proposition et nous arrivons dans une très jolie demeure de l'Alsace, un petit château, le château de Osthofen, dont le propriétaire est le descendant d'une dynastie de propriétaires qui sont là depuis très très longtemps. Et alors leur ancêtre, dont on parle le plus, c'est un officier de cavalerie qui a été mis en déroute, comme tous les Français, par les Allemands pendant la guerre de 70. Mais enfin, rescapé quand même de cette triste expédition, cette triste défense du territoire plutôt, il y a deux chevaux qu'il est autorisé à récupérer, à ramener dans sa propriété, et qui vivent là le reste de leur jour, et ils meurent de leur belle mort, pour autant qu'il y ait des belles morts.
Et ces deux chevaux sont enterrés dans le domaine du château ?
Voilà, il avait tant d'amour et de passion et de respect pour ces deux chevaux, qui lui avaient sauvé la vie pendant la bataille, qu'il décide de les enterrer dans un coin du parc. Un cheval s'appelle Marco, l'autre le Répelle, avec une drôle d'orthographe, mais enfin bon, voilà. Et d'ailleurs, en effet, dès qu'on arrive dans ce château, on nous fait visiter les lieux et on voit en effet ces deux pierres tombales qui sont là avec les noms des chevaux gravés dans la pierre.
Et alors les fantômes ?
Et alors ?
Puisque vous avez promis l'histoire de fantômes.
Oui, oui. Et alors, me raconte le propriétaire des lieux, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, quelques jours avant l'offensive allemande, puisque entre-temps, évidemment, comme vous le savez, l'Alsace est revenue à la France, mais à nouveau, elle a été contestée pendant l'offensive allemande de 1940. Mais quelques jours avant l'offensive, les propriétaires des lieux entendent la nuit des galops de chevaux qui tournent, qui tournent, qui tournent autour de la propriété. Et alors, ils ouvrent les fenêtres, ne voient rien, referment les fenêtres, se rendorment. Le lendemain, cherche à trouver trace, comme la propriété est entourée de gravier. Normalement, des chevaux qui galopent devraient laisser des traces. Il n'y a aucune trace. Et la conclusion à laquelle a abouti le comte habitant les lieux, c'est que ce sont les chevaux eux-mêmes, l'esprit des chevaux, qui est venu prévenir du grand malheur qui allait venir.
Vous-même, Jean-Louis Gouraud, vous avez dormi dans ce château. Est-ce que vous avez entendu ces chevaux galoper ?
Non, justement, comme j'ai rien entendu, c'était l'augure inverse, c'est-à-dire que le reste de ma vie allait se passer convenablement, ce qui est le cas, parce
voilà,
j'ai pu... Voilà.
Donc Marco et
donc
le
Répelle.
Mais il faut y croire, il faut y croire.
Les Pourquoi chevaux, il faut y croire ?
Les chevaux ont une puissance qui nous échappe souvent. Vous savez, il y a un très bon écrivain roumain, Virgil Georgiou, qui a fait un livre magnifique, La maison de Petrodava, qui est peuplée de chevaux qui sont morts, mais qui nous observent, qui nous surveillent. Et c'est Ismaël Kadaré qui disait d'ailleurs « Ah, le jour où les chevaux pourront parler, ces témoins de toutes nos, de tous nos vices, de tous nos travers, ce jour-là sera un très grand malheur pour l'humanité.
»
Lui, le cheval, est un animal qui ne parle pas, mais qui en dit long.
Ouais. et qui est un vecteur de rêves, de fantasmes, de souvenirs et d'histoires et de culture. Et c'est ce que vous êtes allé chercher au cours de ces nombreux voyages. Jean-Louis Gouraud, vous publiez Petite géographie amoureuse du cheval aux éditions Belin. Et donc ce livre commence par un voyage en Corée du Nord. Vous aimez la difficulté quand même.
Oui. Je n'aime pas que les cimetières ou les châteaux hantés, mais en effet, je trouve plus intéressant d'aller visiter l'Albanie au temps de Déranja ou la Libye au temps de Kadhafi que Venise ou Marrakech. Enfin, encore que soit à Venise, comme vous le savez, il y a de très très beaux chevaux aussi. Ouais.
Vous avez mis du temps à obtenir ce visa pour entrer en Corée du Nord ?
En effet, ce pays mérite sa réputation. On dit qu'il est le plus fermé du monde. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai mis 3 ans pour pouvoir obtenir une autorisation. C'est-à-dire, il faut comprendre aussi, lorsque je suis arrivé dans les bureaux de la délégation de la représentation de la Corée du Nord à Paris, parce que je vous signale que la France n'entretient pas le seul pays de l'Union européenne à ne pas entretenir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, mais la Corée du Nord dispose d'un petit bureau de représentation à Paris. Et lorsque je suis arrivé voir les fonctionnaires qui s'en occupent pour leur dire que je voulais aller à leur pays, ils m'ont dit oui, certainement, avec plaisir, mais pour y faire quoi ? J'ai dit pour y voir des chevaux. Là, en effet, il y a eu un moment, dans leurs yeux, j'ai bien compris qu'il y avait un doute, une surprise, ou enfin bon, ils se demandaient si je me payais à leur tête ou quoi. Et je me suis empressé de leur expliquer que non, la motivation principale, c'est que dans toute l'iconographie héroïque qui représente leurs dirigeants, Kim Il-sung, son fils, son petit-fils aujourd'hui, toute cette iconographie les représente à cheval. Je me suis dit, pas en photographie, mais dans de très très belles fresques, de très belles illustrations, je me dis, si on les représente à cheval, c'est pas seulement parce que là-bas, comme ailleurs, le cheval est une représentation du pouvoir, mais il y a peut-être d'autres raisons, et après tout, allons voir.
Et d'ailleurs, quand on arrive à Pyongyang, on peut pas louper le cheval. Alors, il est représenté au-dessus de la ville, c'est ça ?
Effet,
il
y a une
grande statue.
Le monument le plus élevé, celui qu'on voit en tout premier, ce ne sont pas, contrairement à ce que dit les gens mal intentionnés, la haute sculpture de Kim Il-sung, mais c'est au sommet d'une grande flèche un cheval ailé qui s'appelle Cholima, et qui, ce cheval ailé appartient d'ailleurs aux légendes asiatiques, c'est un petit peu un cheval aux bottes de 7 lieues, c'est un cheval qui va...
légendaire.
Oui, cheval qui va plus vite que les autres, c'est un cheval extraordinairement rapide, et en effet, Kim Il-sung avait choisi ce cheval comme allégorie, comme symbole de ce qu'il faudrait que son parti soit.
C'est-à-dire
qu'il aille de l'avant, qu'il aille plus vite, que la reconstruction se fasse à très grande vitesse. Et donc la principale représentation allégorique du régime, c'est un cheval ailé, Cholima.
Alors on va raconter l'histoire de cette passion des dirigeants coréens et peut-être de leur peuple pour les chevaux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité vous emmène en voyage, on découvre le monde à cheval grâce à notre invité, l'écrivain Jean-Louis Gouraud. Et ce voyage est déjà extraordinaire parce qu'il nous ouvre les portes de la Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés de la planète. Alors pour rappeler votre histoire, Jean-Louis Gouraud, vous avez obtenu au bout de 3 ans l'autorisation de séjourner 2 semaines en Corée du Nord pour y découvrir la culture du cheval, l'un des piliers du régime. Comment vous êtes accueilli à l'aéroport de Pyongyang ? Ça commence par là le voyage.
Oui, écoutez, je m'attendais franchement à passer 15 jours sans avoir l'occasion de rire ni même de sourire. Parce que, évidemment, l'image de ce régime est plutôt une image d'austérité, de sérieux, et manifestement, là-bas, on rigole pas. Eh bien, je me suis complètement trompé parce que, à peine franchi les formalités, en effet assez nombreuses, un monsieur de grande taille, les yeux bridés naturellement, est arrivé vers moi, m'a dit « Vous êtes monsieur Gouraud, oui, soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous accueillir. »
Vous parlez français ?
Parlons parfaitement le français, ouais. Tant mieux pour moi parce que je ne parle pas d'autres langues. Oui. Et il me disait « Voilà, écoutez, nous sommes très heureux, je serai à votre disposition pendant tout votre séjour et je m'appelle monsieur In, à ne pas confondre, me dit-il, avec monsieur Out. » Et donc, dès la première minute, j'ai vu que, contrairement à ce qu'on peut croire, on peut rire en Corée du Nord. Et d'ailleurs,
on peut rire si on reste dans les clous imposés par le régime.
évidemment. Oui. Non, mais c'est déjà une première découverte, c'est que c'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible de rire et de sourire. Ensuite, ce personnage m'a accompagné, en effet, pendant les deux semaines de mon séjour. C'est vrai qu'il m'accompagnait nuit et jour. Enfin, nous n'étions pas dans la même chambre, mais en tout cas dans le
il
même
hôtel. Il dormait devant votre porte? Non, quand même pas. Dans le même hôtel.
Mais en vérité, si j'avais bénéficié de davantage de liberté, je sais pas très bien à quoi elle m'aurait servi, parce que je ne parle pas le coréen, apparemment la langue française n'est pas très répandue dans les rues de Pyongyang, ouais. Je suis obligé de vous dire quand même que, pardon de vous couper.
Pour une fois, c'est vous.
C'était moi qui étais en train de vous interrompre.
Oh non, moi je savoure.
Le monde à l'envers.
Ouais. Ah, moi je savoure. Ouais.
Mais je suis obligé de vous dire qu'à aucun moment on ne m'a refusé quoi que ce soit. Quand il a fallu visiter le métro, on m'a laissé visiter le métro, des magasins, j'ai pu visiter les magasins. Quand sur la route je voulais m'arrêter dans un village, on m'a laissé m'arrêter dans le village.
Est-ce qu'on prévoit quand même une visite officielle pour vous, c'est-à-dire les incontournables de la Corée du Nord, de Pyongyang?
Quand même, il faut faire son devoir, c'est-à-dire aller visiter quelques usines modèles, crèches modèles, fermes modèles. Naturellement, aller s'incliner devant la dépouille des deux dirigeants fondateurs du régime.
Modèle,
oui, bien sûr. Et alors, c'est vrai qu'une des particularités les plus extraordinaires de ce pays, c'est son régime politique qui, puisque à l'heure où nous parlons, le président officiel, le président de la République, est un monsieur qui est mort depuis 20 ans. C'est Kim Il-sung qui a été, à sa mort, décrété président éternel. Et ça, on connaissait le président à vie, on connaissait les dynasties, on connaissait, mais la présidence éternelle, ça, on connaissait pas, mais la Corée du Nord l'a inventé.
Et donc son fils, puis aujourd'hui son petit-fils, sont inventés des titres pour régner, c'est ça ?
Son fils est le président éternel du parti. Et son petit-fils a inventé un nouveau système qui recouvre de son autorité et le gouvernement et le parti et l'armée dont il est le président, et je suppose, mais enfin attendez, il est encore assez jeune, et dont il sera probablement, le moment venu, le président éternel.
Et il s'est débarrassé de quelques opposants potentiels notamment des membres de sa famille. Il ne faut quand même pas oublier le caractère dictatorial de ce régime. Et il y a une passion pour les chevaux chez cette dynastie familiale, oui, qui a commencé donc par le fondateur de la Corée du Nord.
Oui,
on publiait même une ode à son cheval et au cheval.
Exactement. Je ne pouvais pas imaginer que Kim Il-sung, ce personnage, ce maquisard, ce personnage ultra politisé, fut capable d'abord d'avoir une très belle écriture, c'est un bon écrivain. Franchement, il a écrit l'âge venant des mémoires que je vous recommande, qui sont pas aussi magnifiques, évidemment, qui nous touchent moins que celles du général de Gaulle, mais qui sont d'un très très bon niveau d'écriture. Il y en a 5 volumes que j'ai regardés, parce que quand on arrive là-bas, dans les magasins, dans les librairies, il n'y a pas beaucoup d'autres littératures disponibles. Et j'ai découvert dans le volume 3, un chapitre qui s'intitule « Mon cheval blanc ». Et alors, Kim Il-sung raconte comment, au cours de sa guerre de maquis contre l'occupant japonais, un de ses hommes lui a proposé un jour de lui passer un cheval.
Il s'appelle Jumong, c'est ça ?
Voilà. Et Kim Il-sung découvrait le cheval. C'est pas du tout un cavalier d'origine. Il n'est pas né dans un milieu de cavalier. D'ailleurs, la Corée du Nord n'est pas un pays à chevaux. C'est un pays de rizières, et dans les rizières, on utilise plus volontiers les bovins que les chevaux. On ne trouve des chevaux en Corée du Nord que dans l'extrême nord, dans ce qui était autrefois l'ancienne Mandchourie. Et donc Kim Il-sung, comme la plupart des Coréens, connaissait pas grand-chose aux chevaux, et quand on lui a offert ce cheval, il savait pas très bien par quelle boule prendre.
Et donc il a fini par lui vouer un culte
petit à petit, découvrant, faisant connaissance avec cet animal, apprenant à le panser, le brosser, l'utiliser, il s'y est attaché. Ce cheval, en plus, lui a sauvé la vie à diverses reprises, et lorsque il a dû, pour des raisons tactiques, se débarrasser de ce cheval, il a bien vu que le cheval se mettait à pleurer. Et évidemment, le petit cœur de Kim Il-sung en a été touché, et ça nous a valu un très joli chapitre de ses mémoires. Et je me demande d'ailleurs si aujourd'hui encore on voit tous ces dirigeants si on les représente à cheval, et si à Pyongyang, l'actuel dirigeant a créé un gigantesque complexe équestre hippique, je me demande si c'est pas pour tenter d'être fidèle à une tradition dynastique. Car il faut savoir que les Nord-Coréens aiment situer les origines du royaume de Corée à moins 4000 ans, de la part d'un roi qui était en fait le fils des dieux. Et vous voyez, ça a bien commencé. Et ce roi-là était un cavalier réputé. Et je me demande si ce n'est pas pour montrer que Kim Il-sung, au fond, est dans la lignée de ces dynasties que le cheval bénéficie d'une telle...
Oui, comment s'inventer un destin royal pour...
C'est
pour,
une hypothèse.
Pour justifier effectivement un quotidien de dictature si on voyageait encore
oui,
un peu.
Oui, on poursuit notre voyage. Allez, on a encore un peu de force. On continue sur RTL. Dans un instant, on vous emmène au Turkménistan. Restez avec nous et curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Elle descend à la montagne à cheval.
Bien entre curieux sur RTL.
C'était un cheval blanc.
Jusqu'à 22h.
Un cavalier qui survit lors de la nuit.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vers l'aventure au galop.
Regardez, il y a Zorro.
Mais oui. Ah, mais vous l'avez reconnu.
À ce temps-là, j'aurais jamais pensé.
Encore masqué, une petite géographie amoureuse du cheval au menu de notre curiosité, en couverture du livre de notre invité Jean-Louis Gouraud, livre publié chez Belin. Alors, on était en Alsace tout à l'heure, en Corée du Nord il y a un instant. On est un peu obligé de passer par les États-Unis quand même, le pays des cow-boys. Ça reste un moyen de locomotion aujourd'hui pour pas mal d'Américains quand même.
Oui, bah pour les gardiens de vaches, hein, le cow-boy, ça reste quand même l'outil le plus pratique. Et évidemment, on ne peut pas prétendre aimer les chevaux, s'intéresser, sans rêver de jouer un jour soi-même au cow-boy, surtout quand on est un jeune garçon. Et naturellement, j'ai voulu réaliser ce rêve, je l'ai réalisé en partant dans le Wyoming.
Alors vous dites que c'est l'un des plus beaux, sinon le plus bel État américain.
Ah oui, c'est magnifique. D'abord, c'est un des moins peuplés de tous les États-Unis. On est déjà dans les montagnes rocheuses. Et on voit en effet galoper à l'horizon des Mustangs en liberté. Alors c'est un rêve, évidemment. Mais ici ou là, il y a des ranchs gigantesques de 40 000, 50 000, 60 000 hectares. Et qui sont dans lesquels, évidemment, on fait quoi? On élève des vaches.
Et vous y faites des rencontres aussi. Vous avez rencontré un cow-boy absolument. Pas banal.
Incroyable.
Il s'appelle comment?
Incroyable. Un cow-boy, on peut ne pas le croire, mais comme il est toujours vivant, c'est vérifiable. Il a un prénom absolument magnifique. Il s'appelle, son nom de famille est assez banal, il s'appelle Fox. Mais son prénom, c'est Bayard. Et en effet, ce cow-boy descend d'une vieille famille française qui a conservé les grands noms comme ça aristocratiques, des chevaliers. Et non seulement les prénoms, Bayard Fox, mais il parle français. Et je crois que c'est le seul cow-boy, le vrai cow-boy, avec un lasso et tout, qui parle français. Voilà. Ouais. Donc il est toujours vivant, il est plus tout à fait jeune, mais il habite un ranch magnifique qui s'appelle Bitterroot. Non loin de Dubois, enfin la ville de Dubois, qu'il faut maintenant prononcer Dubois, mais Dubois, c'est évidemment un colon français qui a laissé des traces là-bas dans le Wyoming.
Et donc vous avez pu jouer au cow-boy?
Oui, faire ce qu'on appelle un pack trip, c'est-à-dire partir 2 semaines avec des chevaux de bas, tout un bazar, des tentes, des trucs, des fusils, des Winchester. Parce qu'il y a encore quelques ours qui traînent ici ou là, donc au moins pour leur faire peur, on peut tirer en l'air. Et voilà. Mais on était aussi accompagné d'un très très gros chien, et la nuit il y avait eu un très très gros orage, et moi qui voulais dormir à la belle étoile comme dans les bandes dessinées, lorsque l'orage s'est éclaté, je me suis vite réfugié sous la tente. Mais il n'y avait pas que moi qui se réfugiais sous la tente. Il faisait nuit noire. Il y a aussi un gros chien qui se... Et j'ai cru que c'était un ours, évidemment.
Vous avez sorti votre fusil?
Ouais, j'ai réveillé tous mes copains. Voilà.
Quelle relation vous aviez avec votre cheval? Quelle relation a un homme ou une femme avec sa monture? Vous disiez que les chevaux, en début d'interview, les chevaux sont magiques. Si on pouvait les faire parler, ils nous diraient des choses qui feraient peut-être sombrer l'humanité, d'ailleurs.
Oui, c'est une relation qui est nécessairement et toujours amoureuse. Parce que ce qui nous sépare radicalement, eux, les chevaux, et nous, les hommes, c'est que eux, sont des herbivores, ce sont des gibiers, ce sont des animaux qui ont peur de ce carnivore que nous sommes, de ce prédateur que nous sommes. Et on a beau tenter de les rassurer par tous les moyens, ils n'oublient pas que quand même l'homme présente un certain danger. Et donc, pour lui, vous me direz que le cheval aussi présente un certain danger pour les hommes, mais enfin, c'est d'une autre façon. Et c'est donc toujours et constamment par un rapport de séduction, de patience, de douceur, qu'on peut arriver à maintenir une relation pacifique avec les chevaux. Et je dois dire que ce que je suis en train de dire peut paraître une banalité, mais pourtant, c'est une découverte quand même relativement récente. Très longtemps, aussi longtemps que le cheval était une affaire d'hommes, c'était parfois une espèce de lutte, de concurrence, une espèce de carne, on va voir lequel de nous deux est le plus fort, etc. Mais lorsque, autour à peu près de la dernière guerre mondiale, le cheval a cessé d'être utile dans les campagnes, dans les guerres, dans les transports, le cheval est devenu un animal plutôt de loisir, de compagnie, et a été mis entièrement entre les mains des femmes. Il faut bien savoir qu'à l'époque où le cheval était un outil de travail ou un élément de rente, les femmes en étaient soigneusement tenues à l'écart, n'est-ce pas ? Et depuis que les hommes ont trouvé d'autres trucs, des avions, des tracteurs, des machins, des voitures qui vont vite et tout ça, ils ont laissé ce domaine, cet univers aux femmes, ce qui a introduit dans l'équitation ces notions tout à fait nouvelles, qu'on appelle aujourd'hui l'équitation éthologique, enfin, qui tout simplement introduit de la tendresse, de la patience, de l'entêtement, il faut
et de la compréhension.
Et de la compréhension.
Et donc
de l'amour.
Et ben voilà, on vous avait promis le Turkménistan. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. Ça va même nous amener un peu de François Mitterrand dans l'émission. Vous verrez, restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les chevaux et les hommes sont indissociables sur tous les continents, dans toutes les cultures. Ils racontent notre histoire et notre invité, Jean-Louis Gouraud, sillonne le monde depuis des décennies pour nous raconter et nous rapporter ces histoires. Comme promis, on va filer ensemble maintenant au Turkménistan pour découvrir l'Akal Teke. Ce n'est pas un cheval ordinaire. Pourquoi ?
Non. C'est un cheval aussi différent des autres chevaux que le lévrier, par exemple, est différent des autres chiens. Il a une sorte d'aristocratie, de beauté étrange, une peau très très fine, très peu de crin, de longues jambes très élastiques, et c'est un animal spécialement élégant. D'ailleurs, une de ses principales sauveteuses, mm-hmm. disait de lui, c'est un cheval qu'il faut vous voyez.
Parce qu'il a failli disparaître, ce cheval ?
Oui, pour différentes raisons. D'abord, à l'époque soviétique, on voulait remplacer le cheval par la mécanique, mais à cela s'ajoute que le cheval étant au Turkménistan une représentation, nationale, presque nationaliste, fait partie de l'orgueil du Turkmène.
Donc c'était gommé par l'Union soviétique.
Voilà, le pouvoir soviétique a tenté de retirer cet élément du patrimoine pour amener les Turkmènes à plus de modestie et en faire, comme les autres, des homo sovieticus bon teint.
Vous êtes passionné de chevaux en général, mais particulièrement de cette espèce, la Kalteke. Vous avez cherché à le faire connaître, à le sauver d'une certaine façon.
Oui, j'ai en tout cas contribué un peu à le faire connaître en France. Je dis un peu, parce que quelqu'un d'autre y a contribué beaucoup plus que moi, c'est le président Mitterrand.
Et comment ?
Parce que lorsque, peu d'années après l'effondrement de l'Union soviétique, toutes les républiques ex-soviétiques sont devenues indépendantes, et notamment, naturellement, le Turkménistan. Et la France a voulu entretenir des relations diplomatiques avec ce pays, qui est bien que assez peu fréquentable, parce que dirigé par un régime assez musclé, enfin assez sévère, bon, assez dans la tradition soviétique d'ailleurs. Il y a eu des échanges entre le président du Turkménistan, le président Niazov, et le président français, qui à l'époque était François Mitterrand. Et comme le Turkménistan, en dehors de très jolis tapis, de très jolis bijoux, et de très beaux chevaux, n'a pas grand-chose à offrir, naturellement, le cadeau de prise de contact fait par Niazov au président Mitterrand, c'était un cheval.
Un Akal Teke.
un Acaltéqué, naturellement.
Et alors là où ça devient très drôle, c'est vous, avec un journaliste, je crois, de Libération,
oui, Jean-Pierre Perrin,
vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce cheval ?
Oui, voilà, parce qu'on a appris une nouvelle très brève, une dépêche de France Presse très brève, qui nous annonçait que voilà, il y aurait ce cadeau. Et moi, comme je présidais à l'époque une petite association de défense et illustration de l'Acaltéqué en France, je me suis dit, enfin, on va avoir un bel Acaltéqué, parce que tous ceux dont on disposait en France n'étaient pas des très bons chevaux. C'était des chevaux dont s'était débarrassé le pouvoir soviétique. Et donc, sachant que voilà, c'était un cadeau présidentiel, je me suis dit, enfin, on va pouvoir avoir un beau cheval.
Sauf que ça se complique.
Mais ça a été l'omerta absolue, silence total, ce cheval, il était nulle part, on savait pas où il était passé.
Pourquoi ?
Et en fait, Mitterrand l'avait offert à un personnage qui n'existait pas encore, qui était Mazarine. Qui était sa fille passionnée par les chevaux. Quand elle a appris que son papa allait recevoir un aussi beau cheval, lui dit, papa, je voudrais avoir ce cheval. Et papa s'est arrangé pour que ça se fasse.
Donc ça partait d'un bon sentiment, de votre curiosité.
Non, non, mais
vous ne pensiez pas mettre le doigt dans cette engrenage.
Et vous avez fini par le voir, ce cheval,
alors, on aime les hommes.
Vous avez fini par le voir, ce cheval ?
Naturellement, on a fini par le voir. Le président Mitterrand a dû finalement organiser une démonstration dans les locaux de la garde républicaine. Et c'était un très très beau cheval, qui a fini ses jours, lui aussi, de sa belle mort dans une écurie privée, puisque Mazarine ne monte plus trop à cheval.
Et ben voilà, belle histoire pour clore ce chapitre. Merci beaucoup. Petite géographie amoureuse du cheval. Jean-Louis Gouraud, c'est publié aux éditions Belin. Merci d'avoir partagé votre passion et votre culture avec nous.
Vous écoutez RTL.